France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
À partir de cet après-midi, à 15h35 précisément, les femmes travailleront pour rien. C'est comme si elles faisaient du bénévolat jusqu'à la fin de l'année. Cette date symbolique a été calculée pour illustrer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Bonjour Rebecca Amsalem.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice des Glorieuses. C'est un collectif féministe qui a fait ce calcul, qu'il fait déjà depuis quelques années. Donc en 2018, les femmes gagnent toujours moins que les hommes et pas qu'un peu.
Oui, effectivement, à partir de ce jour, 6 novembre à 15h35, les femmes travaillent bénévolement et ce jusqu'à la fin de l'année. Alors comment je suis arrivée à ce calcul? J'ai pris l'écart de salaire qui est proposé par Eurostat, donc qui montre qu'il y a un écart de salaire entre les femmes et les hommes aujourd'hui en France à hauteur de 15,2%. Et je l'ai rapporté au nombre de jours ouvrés sur l'année 2018, ce qui m'a donné cette date symbolique du 6 novembre à 15h35.
15%, 15 ou 16% vous m'avez dit là de...
15,2%.
15,2%. 16, c'est à l'échelle européenne, hein, c'est ça?
Exactement.
15,2% en France, ça c'est un chiffre global, ça ne prend pas en compte par exemple au sein d'une entreprise, deux personnes, un homme, une femme qui ont la même expérience, le même âge, il y a un autre chiffre pour ça?
Alors effectivement, c'est un chiffre global qui prend en compte le salaire horaire et qui ne prend pas en compte les temps partiels. Il y a un chiffre qui permet de comparer à poste égal, expérience égale, le salaire d'une femme et d'un homme, et là il y a une différence de salaire à hauteur de 9%. Donc ça montre que même pour un même travail, les femmes sont discriminées puisqu'elles sont rémunérées environ moins de 9% que les hommes.
Et quelles sont les explications à ces discriminations?
Alors il y a plusieurs facteurs qui permettent de mettre en lumière ces discriminations. Si jamais on prend le chiffre de l'INSEE qui montre lui une différence de salaire de 25% entre les femmes et les hommes, parce que ça prend en compte tous les temps confondus et tous les postes confondus.
Comme les femmes confondus. Occupent souvent des temps partiels.
Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment le premier facteur. 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Et effectivement, c'est des emplois plus précaires, qui sont moins bien rémunérés. Et donc, ça explique en partie le fait que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes. Un deuxième facteur qui est non pas négligeable non plus, c'est qu'il y a une discrimination pure. Et c'est ça que le chiffre de 9% met en lumière. Ça veut dire que pour un même salaire, finalement, un employeur va payer moins une femme qu'un homme. Et ça s'explique par l'héritage...
Pour un même poste,
effectivement.
Même poste, même compétence, même âge, même expérience.
C'est ça. Les femmes vont être moins bien payées que les hommes.
Est-ce qu'il y a une forme d'autocensure aussi de la part des femmes qui osent moins demander des augmentations de salaire? C'est pas facile d'aller voir son patron alors que les hommes se gênent moins.
Alors non. Ça, non. C'est vraiment une explication qu'on entend malheureusement extrêmement souvent. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, on dit si les femmes sont moins bien payées, finalement c'est de leur faute à elles. C'est parce qu'elles n'osent pas, elles n'oseraient pas demander une augmentation, elles n'oseraient pas demander une promotion. C'est pas vrai, les femmes demandent des augmentations, elles demandent des promotions, il n'y a pas d'autocensure. C'est juste qu'on leur accorde moins en fait.
Est-ce que l'écart se réduit d'année en année quand même?
Alors effectivement, quand on a commencé le mouvement pour l'égalité salariale, c'était en 2016, l'écart de salaire était de 15,7%. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en 5 ans, il y a eu une diminution de cet écart à hauteur de 0,5 points. Alors 0,5 points, c'est pas énorme. On a même fait un calcul un peu marrant qui montrait que sur cette tendance-là, on arriverait à l'égalité en 2168, donc dans 150 ans.
Ah oui, on sera plus là.
Non.
La France se situe où dans la moyenne européenne?
Alors la moyenne européenne est à hauteur de 16%. D'ailleurs, la Commission européenne a proposé une journée pour l'égalité salariale dimanche dernier, donc le 3 novembre, journée à partir de laquelle les femmes européennes commençaient à travailler gratuitement. Donc finalement, la France se situe à peu près dans la moyenne européenne, puisque nous, ça commence ce mardi 6 novembre.
Et le pays le plus vertueux en Europe?
Alors il y a plusieurs pays qui sont assez vertueux en Europe. Il y a la Suède et il y a effectivement l'Islande qui a mis en place une politique pour endiguer les inégalités salariales depuis une vingtaine d'années.
Alors, non seulement vous organisez cet événement cet après-midi avec des rassemblements, vous appelez les femmes à cesser le travail, etc. Mais dans une étude, vous avez également commandé une étude à l'IFOP que vous publiez ce matin. Étude qui montre que les sondés se rendent compte que justement les inégalités se réduisent. Il y a quand même un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un tiers des femmes qui ressentent, elles, des inégalités qui n'ont jamais été aussi répandues. Elles estiment que les inégalités sont toujours aussi fortes en termes de salaire. Comment expliquez-vous ce sentiment?
En fait, je pense que c'est déjà la notion d'égalité salariale, c'est une notion dont on parle depuis assez récemment. Je pense qu'avant, c'était quelque chose de totalement intégré, donc voire normal. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, je pense que effectivement, on vit dans une culture de pas forcément de la transparence, qui fait qu'on n'est pas forcément au courant des salaires de nos collègues, et donc du coup, on peut pas forcément se comparer. Donc, je pense qu'il y a effectivement une multitude de facteurs qui permettent de mettre en lumière le fait que les femmes aujourd'hui ressentent qu'il y a plus d'inégalités qu'aujourd'hui. Et en fait, ces inégalités sont là. Elles sont pas fictives. Ces inégalités salariales existent.
Et dans cette enquête aussi, vous questionnez les personnes sur l'action du gouvernement. Et le résultat, là, il est très marquant, il est très clair. 3/4 des sondés estiment que le pouvoir n'en fait pas assez.
Oui, effectivement.
Et vous aussi, vous pensez la même chose ?
Je suis d'accord.
Pourtant, là, ces derniers temps, c'était quoi ? C'était au mois de mars, ou en tout cas au printemps, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles dans les entreprises et que les sociétés qui se font épingler devront rectifier le tir en moins de 3 ans. Il y a quand même des choses qui bougent.
Alors effectivement, le sondage IFOP Madame Women pour les Glorieuses a mis en lumière que 73% des sondés pensent que le gouvernement n'en fait pas suffisamment pour endiguer les inégalités salariales. Il y a des choses qui bougent effectivement, il n'y a pas rien qui n'est fait. Mais malheureusement, ça va pas suffisamment loin. Ce qu'on a fait avec les Glorieuses, et ça fait 2 ans qu'on a fait cette étude, on a fait un tour d'horizon, notamment en Europe, des meilleures pratiques en matière d'égalité salariale, pour voir ce qui marche. Et en fait, l'idée, c'est pas de réinventer la poudre non plus, c'est de voir qu'est-ce qui a marché ailleurs, qu'est-ce qui a permis d'endiguer ces inégalités, et comment est-ce qu'on peut l'appliquer ici.
Et ce qui marche, c'est quoi alors ?
Ce qui marche, c'est un trio de 3 mesures qui permettent d'endiguer ces inégalités salariales. Donc, dans un premier temps, favoriser une transparence des salaires en entreprise, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on se situe. C'est juste une notion d'information.
Ça veut dire qu'on publie quoi ? On publie le salaire moyen de l'entreprise, c'est sur le site internet, c'est quoi ? C'est ça ce que vous souhaitez ?
Alors, ce qu'on souhaite, c'est publier une grille des salaires.
D'accord.
Au sein des entreprises, pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'ils se situent par rapport à leurs collègues. Dans un second temps, un certificat d'égalité obligatoire. Donc, c'est quoi un certificat d'égalité obligatoire ? C'est un certificat qui a été mis en place en Islande en janvier 2018, qui fait en sorte que les entreprises doivent prouver d'elles-mêmes qu'elles respectent les égalités salariales au sein de leurs entreprises. Et si elles ne le respectent pas, elles font face à des amendes qu'elles devront payer pour se remettre à niveau, pour se corriger, exactement.
Et des amendes, il n'y a pas de sanctions comme ça en France, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de sanctions comme ça, il y a des sanctions qui sont prévues, qui ont été évoquées par le gouvernement, mais il n'y a pas de chiffres concrets qui ont été proposés.
Et la troisième mesure ?
Et la troisième mesure, c'est de faire un congé paternité qui soit aussi long que le congé maternité. Parce qu'on a remarqué, c'est que les inégalités salariales se creusent au moment du premier enfant. Et effectivement, si jamais on met les deux parents sur un même pied d'égalité, à ce moment-là, ça permettrait d'endiguer ces inégalités.
Et là, on en est où ? L'idée fait son chemin ? Il y a une réflexion autour de ça ou on en est très loin encore ?
Alors, pour le certificat d'égalité obligatoire, ce qui est proposé par le gouvernement, c'est assez similaire. Maintenant, ce qui fonctionne, c'est si jamais les amendes permettent effectivement que les entreprises respectent ce certificat plutôt que de préférer de payer ces amendes-là.
Et pour le congé paternité ?
On
n'y est pas du tout là.
On n'y est pas du tout, mais je pense que c'est vraiment parce que à la fois ça joue sur ces inégalités salariales et aussi sur une évolution des mœurs et une évolution des pratiques culturelles. Et je pense que c'est un tout finalement. Quand on parle d'égalité salariale, on parle d'égalité économique entre les femmes et les hommes. Et sans égalité économique, on ne peut pas prétendre à une égalité politique et on ne peut pas prétendre à une égalité sociale. Donc c'est un combat vraiment qui est très large et qui permet de regrouper finalement plusieurs combats du féminisme.
Et ce qui est compliqué, c'est que c'est un problème de mentalité aussi et pour bouger les mentalités, il faut du temps. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout sur un sujet comme l'argent qui est quand même globalement tabou en France. On parle beaucoup moins à la machine à café, c'est rare de se dire combien on gagne alors qu'aux États-Unis, ça se fait ça.
Effectivement, et pourtant c'est indispensable pour arriver à une égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Merci beaucoup d'être venue ce matin, Rebecca Amsalem, fondatrice donc des Glorieuses. Hein, c'est le collectif féministe qui a lancé cette opération, le hashtag 6 novembre 15h35 sur Twitter. Je précise quand même que votre étude, l'étude réalisée par l'IFOP et que vous avez commandée, a été réalisée auprès d'un échantillon d'un millier de personnes par des entretiens réalisés sur Internet les 23 et 24 octobre dernier. Merci beaucoup d'être venue sur France Inter ce matin.